Au Québec, encore trop peu d'entreprises ont entamé leur transformation numérique. Pourquoi sont-elles aussi peu nombreuses à prendre ce virage? À quel rythme devrait-on investir dans les nouvelles technologies? Dans cet épisode de Libre-Échange, on discute des impacts de la transformation numérique sur le plan économique, mais aussi sur le plan humain. Sur le terrain, Virginie Lepage, de l'entreprise Ferme Olofé, Philippe Fortin, de Desjardins Entreprises, et Georges Sabag, d'InnoCentre. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Bienvenue à Libre-Échange. Virginie Lepage, vous êtes directrice générale de la Ferme Olofé. Je suppose, Virginie, qu'en 1974, quand vos parents ont acheté beaucoup de terres à Saint-Félicien, ils ne soupçonnaient pas que ça deviendrait Olofé, un grand producteur, un grand transformateur de grains, en particulier d'avoine, et que ça allait nourrir beaucoup de monde.
Mon père, à l'époque, avait 19 ans, ma mère 20 ans, donc je pense qu'il n'y avait pas dans l'idée que ça deviendrait aussi gros, et surtout d'avoir une relève qui a repris la deuxième génération d'entreprise.
Ça fait déjà 10 ans, d'ailleurs, que vous avez... Oui. Repris la ferme de vos parents.
Oui, avec mon frère et ma sœur, oui.
Mais depuis les 4 dernières années, c'est assez impressionnant. Votre chiffre d'affaires est passé de 10 millions à plus de 17 millions. C'est vraiment quelque chose là, qui marque. Là, vous avez entamé une grande transformation numérique. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour entamer ce grand processus de transformation numérique?
Le processus de transformation numérique a été au départ lorsqu'on a mis en place une certification dans notre usine qui s'appelle le SQF. C'est une norme mondiale pour la transformation agroalimentaire. Donc, quand on est arrivé pour implanter la norme, on avait le choix d'avoir notre contrôle qualité en papier ou d'y aller carrément dans un logiciel qui est nuagique, donc avec accès à l'information en tout temps, à tout endroit. Puis ça nous permettait aussi de fournir à nos opérateurs des tablettes pour qu'ils soient capables d'effectuer leur travail. Donc, quand on a eu ce premier projet-là, on s'est demandé, OK, c'est quelle est la meilleure façon de le faire, puis quelle est la façon que nous, dans l'avenir, on va avoir le plus d'informations qui va être sorti du système. Donc, ça a été comme notre premier projet en 2015 qu'on s'est posé vraiment des questions plus approfondies sur la transformation numérique.
Et qui est venu d'un besoin, finalement, et puis presque en même temps d'une opportunité.
Oui, avait le besoin était très grand d'avoir une norme à l'interne. C'était très important pour nos clients. Ça nous bloquait, en fait, de faire des livraisons chez certains clients. On avait des exigences au niveau de la norme. Puis, à la suite de l'analyse, quelle norme on allait implanter, la transformation numérique est venue par la bande. Donc, nous autres, ça nous stimulait beaucoup d'avoir des projets comme ça parce qu'on était, on voyait qu'on prenait un pas d'avant de l'entreprise traditionnelle familiale qu'on avait au départ avec, que nos parents avaient monté. Donc, on était très fiers de ça puis surtout très heureux d'utiliser les outils numériques qui étaient à notre portée, là.
Oui, voilà. Puis, vous êtes parti à Olofé, en fait, est devenu de producteur agricole un grand transformateur et innovant en plus grâce à cette transformation numérique.
Oui, à la base, c'était une ferme laitière qui est devenue une entreprise agricole, qui est devenue une entreprise de transformation alimentaire. Puis oui, à travers tous les projets qu'on a montés dans l'usine, en 98, le départ de l'usine de transformation, qui était de prendre l'avoine localement puis de la transformer dans notre région, qui est au Lac-Saint-Jean, c'était une idée qui était un peu folle parce que maintenant, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire et de souveraineté alimentaire, mais à l'époque, mes parents avaient déjà cette idée-là de le faire. Donc, ils étaient déjà innovants en partant, en voulant transformer de l'avoine, en voulant faire un produit local qui n'existait pas à l'époque au Québec. Il n'y avait pas de transformateur d'avoine, donc c'était les premiers à faire ça. Là.
Et aujourd'hui, vous transformez, en fait, vous produisez plus de 18 millions de kilos d'avoine. C'est impressionnant, là. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que, justement, cette transformation numérique a influencé le chiffre d'affaires et la production?
Certainement, tous les projets qu'on a fait depuis 2015, depuis l'implantation de la norme, on a eu des projets de robotisation, d'automatisation qui font partie de la transformation numérique. Puis ces projets-là, d'intégrer des robots dans nos lignes de production, nous a permis de maintenir une cadence de production plus élevée. Donc, tout ce qui était fait anciennement par des opérateurs, maintenant, c'est des robots qui le font. On a encore le même nombre de personnes dans notre usine. Par contre, les robots nous permettent d'augmenter justement notre transformation, d'augmenter les quantités produites.
Et quand vous dites robot, Virginie, ça a l'air de quoi si je vais chez Olofé?
C'est des petits robots palettiseurs. En fait, c'est juste que nos lignes de production, on produit des formats de 10 kilos, 25 kilos, jusqu'à 1000 kilos. Donc, c'est vraiment des formats pour l'industrie alimentaire. Les sacs sont juste placés sur les palettes par des mains robotisées, en fait. On a mis des lignes dans sa charge qui sont beaucoup plus grosses que notre capacité de production. Fait que même en faisant nos projets d'automatisation et de transformation numérique, on s'assure aussi que dans l'avenir, on va avoir encore de la capacité sur les nouvelles lignes qu'on installe.
Là, est-ce que vous diriez que vous êtes dans une première phase là, de transformation numérique?
Certainement, parce que je pense qu'on va pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans les années futures. Puis comment on va le faire? Bien là, ça, ça va probablement être avec l'aide de nos amis d'Innocentre ou des conseillers spécialisés là-dedans. Mais je pense qu'on est dans la première phase. Puis la première phase a été amenée par nous, les repreneurs de l'entreprise. Donc, c'était des étapes, là, tu sais, qu'il fallait passer au travers. Fallait passer au travers de notre projet relais. Fallait passer que nos parents aussi acceptent la situation puis qu'ils se retirent. Ils ont fait ça comme des champions. Puis là, ben, maintenant, nous, on peut faire progresser l'entreprise à notre façon, en passant par la transformation numérique.
Oui, voilà. Puis là, il y a l'aide, l'accompagnement de Desjardins là-dedans, n'est-ce pas, Philippe?
Oui, quand on parle de productivité, on parle d'automatisation, de transformation numérique, ce que ça amène de la rentabilité, ça amène la profitabilité pour être capable de réinvestir encore dans l'entreprise et rester compétitif. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas eu de perte d'emploi quand on parle d'automatisation, de transformation numérique. On parle de gain de productivité, on parle de croissance, on préserve des emplois. C'est ça qui est intéressant ici.
Et c'est doublement intéressant que souvent, on a l'impression aussi, quand on dit transformation numérique, peut-être Georges Sabat, vous pouvez enchaîner là-dessus, mais souvent, les travailleurs eux-mêmes ont un peu cette crainte de voir des robots prendre leur place. Et avec tout ce qu'on dit en ce moment sur l'intelligence artificielle, c'est probablement une des craintes que vous entendez le plus, Georges.
Oui, effectivement. Historiquement, les robots ont toujours fait peur de prendre les jobs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec les difficultés au niveau de la main-d'œuvre, les tâches qui sont difficiles, surtout dans le domaine agricole? En fait, les robots sont juste là pour faciliter le travail, augmenter les cadences de travail, l'optimisation du travail aussi. Donc, je pense au début, ça peut faire peur, mais ensuite, une fois que les robots et les systèmes automatisés sont intégrés, les mentalités changent rapidement, parce que là, on voit qu'on ne peut pas plus passer les robots pour notre croissance.
Vous avez dû sans doute, Virginie Chiolofé, expliquer à vos travailleurs, regardez, cette transformation numérique est bénéfique pour tout le monde.
Oui, c'est bénéfique pour tout le monde parce qu'on a passé d'un poste dans sa chaire à opérateur de ligne robotisée. Donc, la personne, elle a besoin de connaissances supplémentaires. Donc, tu sais, nous, on a amené ça de cette façon-là. Les tâches manuelles, vous ne les ferez plus, ce que les gens aiment moins. Puis, nous, on va vous former pour que vous soyez capable d'opérer des lignes robotisées. Donc, c'est super intéressant pour la personne qui veut apprendre davantage puis qui veut aller plus loin aussi dans son travail. Ça demande des connaissances supplémentaires, mais comme Georges a dit, au bout du compte, tout le monde est très heureux de ça. Puis quand on regarde le robot travailler, tout le monde est super fier aussi, là, parce que ça nous permet d'avoir enlevé les tâches manuelles que nous, on n'appréciait pas que nos gens fassent.
Là. Évidemment, là, on parle des bénéfices. Il y a quand même des obstacles.
Oui. Hein?
On parlait tout à l'heure de la crainte de certains travailleurs. Ça peut être vu comme un obstacle aussi parce qu'il faut expliquer que la transformation numérique va amener des changements qui seront positifs. Mais il y a quand même des obstacles sans doute sur le chemin d'un entrepreneur comme vous. Là.
Je vous le cacherai pas. Là, on est en rodage pendant 7 à 8 mois de temps qu'on a perdu des produits, on a perdu des sacs, on a perdu... Des fois, j'arrivais dans l'usine, il y avait des tas de gruaux partout. Puis là, j'étais comme... Ah, c'est pas supposé être comme ça, là. C'est supposé être mieux que ça. Puis, ça a été beaucoup d'ajustements de lignes. C'est ma sœur qui est en charge du projet, puis il y a eu des nuits blanches aussi, là. Jusqu'au moment où que tout était fonctionnel, réglé, puis là, ça a décollé, puis ça fonctionne extrêmement bien.
Évidemment, bon, vous recevez de nombreuses propositions pour vendre à l'extérieur, dans d'autres marchés. Ce que je trouve très intéressant, vous avez fait le choix chez Olofi de d'abord servir le marché québécois, local. Oui. Pour quelle raison?
L'usine a été bâtie à Saint-Félicien parce qu'on avait une proximité au niveau de la matière première. Il y a beaucoup d'avoine qui se produit dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, mes parents avaient dit, OK, on a accès à de la matière première, on va faire la transformation en région. On va préférer fournir des transformateurs québécois pour que ça reste sur le marché local plutôt que d'aller sur le marché américain. On a des demandes, écoute, c'est à toutes les semaines. Mais notre mission d'entreprise, c'est vraiment de nourrir le Québec avec l'avoine qui est produite localement. Donc, on tient à cette mission-là. Puis pour nous, ça a un sens. On ne travaillerait pas dans une entreprise qui ne nous ressemble pas, premièrement, puis qui est contre nos valeurs. Donc, on poursuit la mission de nos parents.
On a parlé d'une première phase de transformation numérique. Dans une deuxième phase, il y aurait un agrandissement de la capacité de production et de transformation.
Grâce à Innocentre, justement, on avait fait une planification stratégique. Puis on avait beaucoup d'enjeux au niveau du rachat de l'entreprise. Donc, 2024 a servi à racheter l'entreprise de nos parents. Donc, on est 100% propriétaire. 2025, nouvelle planification stratégique, nouveaux enjeux. Donc, oui, on est en train de regarder pour augmenter notre production. Forcément, ça va passer par la robotisation, numérisation de nos processus.
Parce que c'est ça aussi, je pense que le processus de transformation numérique, il faut comprendre que c'est un processus en continu, finalement. À partir du moment où on commence, on ne sait pas quand ça finit. Là.
C'est sûr qu'en étant en entreprise, il n'y a comme jamais de fin à rien. Voilà. On est toujours en mouvement. Donc, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Fait que c'est sûr que tant que je vais travailler, ça va être des projets de transformation, puis numérique et automatisé à suivre pour la suite, mais c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres.
Ça passe toujours par l'automatisation, vous diriez?
Je pense que ce qui est super important, c'est, premièrement, c'est de commencer.
Oui.
Et deuxièmement, c'est la culture de l'entreprise. Puis, quand on intègre l'innovation et la technologie dans la culture d'entreprise, tout devient plus facile. Et je pense aussi que le point de départ, c'est avoir des petites victoires qui, là, nous donnent confiance pour continuer et continuer d'innover. Puis encore, c'est pas nécessairement toujours des gros investissements de lignes de production. Des fois, c'est juste avec ce qu'on a, être capable de faire plus, de le faire mieux, d'augmenter notre productivité comme ça, c'est déjà un très bon point de départ.
C'est important aussi d'avoir un plan. Parce que il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de solutions aussi, mais c'est lequel qui va s'adapter le mieux à notre réalité, puis de pas se perdre là-dedans parce que on peut se lancer dans millions de projets, mais c'est lequel qui justement qui va nous apporter le plus de rentabilité, puis c'est quoi notre plan 12 mois, 18 mois sur le futur de la transformation qui s'en vient dans notre entreprise.
Beaucoup de pain sur la planche, devrais-je dire, de l'avoine bio sur la planche, Virginie Lepage.
Oui, on a quand même beaucoup de travail, mais c'est stimulant, puis l'avenir, moi, je vois prometteur pour Olofé et pour toute
tellement.
L'équipe.
Félicitations, vraiment. On ne verra plus jamais notre gruau pareil.
Non, c'est ça. Tant mieux.
Philippe Fortin, en intro, je mentionnais qu'il y a encore trop peu d'entreprises québécoises qui investissent en transformation numérique. Est-ce que chez Desjardins, vous êtes intéressé ou pourquoi?
On s'est intéressé au pourquoi, parce que pour nous, c'est essentiel l'investissement dans la transformation numérique, l'automatisation. C'est essentiel pour rester productif, ses profitabilités, pas être réinvesti dans l'entreprise et nous permet d'être compétitif. Le pourquoi, j'ai l'impression que ce qu'on a pu identifier, c'est un risque pour l'entrepreneur, c'est sûr et certain.
Il le voit comme ça.
Oui, il le voit comme ça. Il le voit comme un risque au lieu de le voir comme un investissement. Pareil comme on investit dans des équipements, mais il faut investir dans sa productivité, revoir ses processus, revoir la façon de voir les choses, avoir une vision, avoir un plan stratégique.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un retard quand même assez marqué au Québec?
On peut le voir au cours des 10 dernières années. Les Américains ont investi 100% de plus que nos entrepreneurs québécois au niveau de l'automatisation, au niveau de la numérisation.
Oh.
Et au Canada, on parle de 60% de plus. Donc, on a vraiment un retard qui est très important au niveau du Québec. Mais présentement, je pense que tous les intervenants dans le marché en parlent énormément pour être capables de s'assurer que nos entrepreneurs puissent prendre conscience le côté positif d'investir, de demeurer compétitif, mais aussi de sauver des emplois et garder des entreprises en place.
Quand vous, Virginie, je pense que vous me l'aviez dit, que ça vous en revenez pas d'ailleurs du retard des entreprises québécoises.
On est vraiment en retard au Québec. Chaque heure travaillée génère moins d'argent au Québec que dans le reste de l'Amérique du Nord. Donc, c'est des gros enjeux. Comment nous, à notre échelle, on peut le rendre, on peut améliorer notre portion, comme on peut faire en tant qu'entrepreneur, comme on peut améliorer notre section là, sur quoi on travaille.
Ouais.
Moi, je crois profondément que la transformation numérique, ça va aider énormément. Mais en arrière de ça, il faut se poser la question, c'est quoi notre stratégie, c'est où on s'en va, c'est quoi notre plan?
Ça. On revient au fameux plan.
Enfin, on revient au fameux plan.
Et Georges Sabat, je voyais que vous étiez d'accord avec ce que Philippe disait quand on parlait du retard des PME québécoises et de la façon dont on perçoit la transformation numérique. C'est-à-dire pas forcément comme une opportunité d'abord, mais comme un coût, un mal nécessaire.
Oui.
Vous devez l'expliquer, vous, aux entreprises que vous accompagnez?
Oui, on le voit beaucoup aussi. Oui, il y a des craintes, il y a de l'incertitude. C'est pas nécessaire de faire des grosses actions, des gros investissements. Des fois, des petits investissements sur les processus dans certains départements d'entreprise vont générer des gains de productivité ou une augmentation de la profitabilité de l'entreprise.
Philippe? Quelles seraient les clés d'une transformation numérique réussie, vous diriez?
Ça part avec une vision, ça part avec un plan. Puis ce plan-là, ben faut le détailler, les étapes qu'on a de besoin. C'est quoi notre but ultime qu'on veut atteindre? Puis dans ce but ultime-là, il y a plusieurs choses qui veulent faire que c'est une transformation numérique qui est intéressante. Et on a un réseau, dans le fond, de partenaires d'affaires avec nous qui sont habitués de travailler avec les entrepreneurs auxquels on réfère. On travaille en équipe. Puis je pense qu'on est multidisciplinaire. C'est ça qui est important pour nous, c'est d'avoir une bonne ouverture d'esprit puis amener la bonne personne, les bons intervenants pour nos entrepreneurs. Mmh. Tu sais, à la fin de la journée, on dit pas qu'on a toutes les réponses, mais on est capable de trouver le monde alentour de la table qui va amener des réponses aux questionnements d'entreprise, parce qu'on a des entreprises de tous les secteurs d'activité. Donc, le financement, c'est la finalité.
La réussite de cette transformation numérique, Philippe et Georges, dans la foulée, est-ce que vous diriez que ça passe forcément par l'automatisation, la robotisation de certains processus?
Oui, ça passe par l'automatisation, la robotisation, mais tu sais, la transformation numérique, c'est plein de petits projets aussi. Tu sais, faut pas se limiter à avoir le très gros projet d'une nouvelle ligne automatisée, ensachée, robotisée. Je pense qu'il y a plein de petits projets qui vont permettre de gagner des gains de productivité. On parle de qualité. On parle maintenant d'être dans un environnement sans papier. Donc, être capable, sur le bout d'une tablette, d'être capable de chercher tous les processus de fond en comble, être capable d'avoir un système qui permet d'avoir un chat avec un client qui est capable de donner un compte-rendu direct sur la qualité du produit, puis qui est capable de rentrer dans notre système aussi. C'est toutes des petites choses. Puis quand je dis petites choses, c'est le partenaire financier qui parle, il voit pas tout le côté technologique en arrière, mais c'est clair que c'est tous des éléments qui sont intéressants, qui sont pas à négliger. Parce que souvent, tout le monde va imaginer le grand terrain, la grande usine, et ainsi de suite, mais il y a beaucoup de petites choses qui font que la productivité peut augmenter. Et ça donne des gains qui sont notables, qui sont intéressants pour tout le monde.
Ouais, Georges, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, absolument. Donc, la transformation numérique permet aussi d'aller chercher beaucoup de données à travers l'entreprise qu'on n'a pas normalement. Donc, ça nous donne une transparence et une exactitude de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, tout ça nous permet aussi d'avoir l'amélioration continue et ce qui nous amène de la croissance et de continuer à atteindre nos objectifs. C'est sûr, l'engagement, la direction, mais il faut beaucoup, beaucoup inclure toutes nos équipes. Tout passe par eux, le succès passe par eux.
Et vous l'avez fait chez Olofé, d'ailleurs. Vous avez vraiment fait en sorte que tout le monde participe à cette transformation numérique.
Ben oui, ça passe par la communication aux équipes, c'est sûr. Il faut communiquer qu'est-ce qui s'en vient, comment on va le faire, ça va être quoi le résultat aussi, comment on va en arriver là ensemble. Parce que juste nous autres, on n'est pas assez bons pour faire ça tout seul. Ça prend une grosse équipe en arrière de nous autres.
Oui, tout à fait. Et puis là, il y a la question financière. Parce qu'on disait d'entrée de jeu tout à l'heure, des fois, ça peut être perçu comme un coût. Les entreprises n'ont pas forcément les moyens. En tout cas, des fois, on n'a pas l'impression qu'on a les moyens de se payer cette transformation numérique. Qu'est-ce que vous leur dites chez Desjardins, Philippe, pour les encourager à le faire?
Bien, moi, je dis que c'est un investissement. Pour le partenaire financier, il voit que l'entreprise continue à grandir, avoir une croissance, ou pas juste avoir une croissance en termes de chiffre d'affaires, mais en termes aussi de profitabilité, parce que des fois, tu peux revendre le même produit, mais les coûts associés à ça vont diminuer grâce à la productivité, les gains qu'on va faire. Fait que pour le partenaire financier, c'est énormément rassurant, c'est de la confiance qu'on développe. On voit tout le plan stratégique qui est en arrière, où ça va amener.
Donc, vous, j'imagine que vous suivez les entrepreneurs comme Virginie chez Olofé, puis vous leur dites, ben voilà, il y a aussi des phases dans le financement.
Clairement, il y a des phases dans le financement, puis qui suivent aussi les phases de développement de l'entreprise. C'est tout dépendant où il est rendu dans sa maturité financière. Et pour nous, dans le fond, c'est un accompagnement, c'est un support qu'on est là pour être capable de s'assurer d'avoir la bonne structure de financement en place. Mais ça revient toujours à la base. Il faut s'assurer d'être le plus productif possible. Donc, ça passe par une transformation numérique, ça passe par l'automatisation et ça permet de dégager des marges de manœuvre pour l'entrepreneur, être capable de rembourser son partenaire financier aussi.
Quand on vous écoute, on a envie de transformer numériquement son entreprise. On se dit, on y va. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui disent, pas encore sûr que c'est nécessaire dans mon entreprise maintenant?
Je pense que c'est de prendre le temps d'en parler. Souvent, ce que les entrepreneurs sont dans leur solitude, sont en haut de leur montagne, puis ils sont en train de faire leur projet. Je pense que c'est important, puis on en voit de plus en plus de mariages, de regroupement d'entreprises, de regroupement d'entrepreneurs. Donc, c'est de partager ces défis qui s'en viennent et d'être capable d'avoir une ouverture d'esprit, de dire « j'investis dans le futur ». Puis, à ce moment-là, on est capable d'en discuter ensemble, de trouver des solutions avec les bons partenaires, avec les expériences que d'autres entrepreneurs ont vécues pour pouvoir essayer d'éviter les pièges qu'on peut avoir pour la croissance de l'entreprise. Mais pour moi, c'est pas si on fait une transformation numérique, c'est plutôt quand qu'on a fait la transformation numérique. Ouais. Puis c'est intéressant parce que la nouvelle garde entre jeunes entrepreneurs, c'est sûr et certain que pour eux, le risque, ils voient l'investissement sur une plus longue période, sur une 10, 15, 20, 30 années. Mm-hmm. Tandis que t'as les entrepreneurs qui existent, qui sont là depuis 30 ans dans leur entreprise, c'est peut-être là qu'ils vont avoir un petit questionnement plus important au niveau de l'investissement. Ils vont peut-être le voir plus comme un coût, alors qu'il faut continuer à voir que c'est un investissement dans l'entreprise pour la pérennité de l'entreprise.
Mm-hmm. Georges, chez Innocentre, vous accompagnez des entreprises québécoises dans une transformation numérique. On disait tout à l'heure qu'il y avait un certain retard au Québec. Est-ce que vous remarquez quand même une ouverture de la part des PME québécoises?
Oui, absolument. Ça fait longtemps qu'on parle de virage numérique, mais je pense que les entreprises sont prêtes, sont matures aujourd'hui pour débuter leur virage. Je pense qu'ils ont besoin d'aide pour savoir où commencer. Et maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a vraiment un buzz qui arrive avec ça chez les entreprises. Donc, il y a beaucoup d'informations à partager avec eux autres, savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi les différentes solutions numériques à faire, qu'est-ce qui est bon pour eux autres, comment ça peut les aider, combien ça coûte.
Donc, c'est tout. Fait qu'il y a une curiosité de la part des entreprises.
Exactement.
Oui. Et ça, c'est positif, là.
C'est très positif, oui, parce que ça amène la discussion. Puis c'est là le point de départ, c'est d'en parler. Après ça, le répondre spécifiquement pour eux, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Et donc, c'est la bonne place pour commencer.
On a beaucoup parlé du fameux plan, mais il y a aussi cette planification stratégique et technologique.
Exactement. Donc, il faut regarder le long terme, parce que quand on amène la technologie, on veut pas être obligé de remplacer à chaque année. On veut justement puis avoir une stratégie d'intégrer chaque élément de l'usine ou de notre entreprise à se parler pour que cette information-là qui est partagée dans l'entreprise puisse servir aux dirigeants d'entreprise. Donc, on veut pas que l'humain soit au service des outils numériques. Non, au contraire, c'est supposé d'aider les entrepreneurs, les dirigeants à leur amener une valeur. Ça, c'est important.
Ça, c'est un très bon point. Hein? On retient, Virginie, on veut pas que l'humain soit à la merci de l'outil technologique, mais c'est vrai. Et comment on fait ça? Comment vous avez fait ça chez Olofi, là, que ça soit vous qui gardiez encore le contrôle et pas finalement que l'outil devienne celui qui décide de ce qu'on va faire?
De bien comprendre la technologie qu'on utilise puis de bien la maîtriser, je pense que ça permet de garder un contrôle de tout ça.
Fait que je pense que c'est clé de toute façon, Philippe, pour toutes les entreprises. La formation là-dedans, c'est souvent de en pauvre parce qu'on se dit on n'a pas le temps. Hein? La formation, ça prend du temps.
Oui, clairement, il faut investir dans nos ressources parce qu'on investit dans la technologie, mais si on n'investit pas dans les ressources pour l'utiliser, ça ne donne rien. On ne peut pas utiliser au maximum cette technologie-là qu'on est en train de
mettre
en place.
Mais des fois, dans le quotidien, ce n'est pas évident.
Du tout.
Tu as besoin que tes ressources soient sur la chaîne.
Il faut trouver du temps, puis ça prend de l'énergie aussi aux superviseurs de se former les équipes. Là.
Chez Innocentre, vous en faites la formation, ça fait partie de l'encadrement que vous donnez?
En fait, le côté ressources humaines est très important pour nous. Une statistique importante que je ramène souvent, c'est que 2/3 des solutions numériques ou technologiques échouent dans leur implantation, pas dû à la technologie, mais plus au côté humain ou les autres ressources autour. Donc, ça passe par les équipes autour, ça passe par les ressources qui sont formées, qui sont motivées, qui sont engagées et qui sont préparées au changement pour l'intégration de ces technologies-là.
Mais justement, Georges, comment s'assurer que le facteur humain joue toujours un rôle positif dans l'application, dans l'intégration d'une transformation numérique?
Donc, quand on accompagne une entreprise, on s'assure d'inclure les différentes équipes de l'entreprise. On identifie des champions aussi, mais...
Des champions, c'est?
Des champions, c'est ceux qui vont être responsables, si tu veux, du succès du projet, puis qui vont bien maîtriser le côté technique, mais le côté humain aussi.
Comme des leaders d'équipe, finalement.
Exactement, exactement. Mais les employés, surtout ceux au niveau opérationnel, c'est eux autres qui connaissent les processus mieux que n'importe qui. Donc, il faut avoir leur feedback, il faut avoir leurs recommandations, il faut les impliquer aussi. Parce que si on veut s'assurer que la transformation va bien marcher, leurs recommandations doivent vraiment être incluses dans le projet.
L'important là-dedans, c'est l'attitude. T'sais, c'est avoir l'ouverture d'esprit, autant pour l'entrepreneur que pour les employés. Hein, qu'il y a un lien de confiance qui se crée. Puis si l'employé voit l'entrepreneur aller dans une direction, l'entrepreneur a une bonne attitude de communiquer aussi à son employé.
Mais il faut être formé.
Et voilà.
La formation, là, c'est...
Clairement. Donc, il faut être ouvert à être formé, à changer ses manières de travailler, à s'adapter à la technologie, puis voir les bienfaits que cela a amené. C'est sûr que quand on dit changement, tout le monde et tous les êtres humains, c'est un peu réfractaire.
On fait comme ouf!
mais je pense que quand on explique les effets bénéfiques qu'on va avoir, clairement, les employés vont embarquer dans le bateau, vont embarquer et ils vont donner leur opinion, vont participer à ça, vont avoir l'attitude.
Et je vous écoute raconter ça, puis en même temps, on comprend donc l'importance des valeurs et d'imbriquer ces valeurs-là dans un processus de transformation numérique.
Oui. Donc, les valeurs d'entreprise, c'est super important. Puis ça part d'en haut. Donc, il faut l'engagement de la direction, mais il faut aussi créer ce canal de communication entre la direction, entre les équipes de projet et les utilisateurs qui, eux, vont vivre avec les décisions que la direction prenne. Donc, je pense qu'il faut se parler dans toutes les directions.
Exact. Puis communication, c'est une des valeurs de votre entreprise, de chez Olofi, la communication.
L'entraide, le respect et la responsabilité. Donc, c'est des valeurs qui vivent à travers tous nos projets puis à travers nos équipes au jour le jour aussi, nous.
On a l'impression, Georges, que c'est beaucoup les start-up hein, qui sont en transformation numérique, qui sont robotisées, qui sont vraiment automatisées, alors que finalement, des entreprises... Olofi est un bon exemple, d'abord dans un secteur agroalimentaire où on soupçonne pas qu'il y ait forcément une transformation numérique, et aussi une entreprise qui est là depuis très longtemps.
50 ans cette année, oui.
C'est félicitations.
Merci.
Alors, est-ce qu'on perd des opportunités, des fois, des occasions de dire à des entreprises qui sont bien établies depuis longtemps, hey, vous aussi, vous pouvez, là?
Oui, mais la transformation numérique, c'est pour tout le monde. Les entreprises, les start-up ou ceux qui ça fait 50 ans qu'ils existent. Ça revient à la culture, oui. Mais je regarde ça beaucoup aussi au niveau de l'importance qu'on accorde à l'amélioration continue. Une entreprise qui veut s'améliorer toujours, aller de l'avant, croître beaucoup, faut aller plus loin au niveau de la formation continue aussi. Voilà. Parce que les employés qui maîtrisent toutes les expertises d'entreprise doivent eux aussi savoir c'est quoi les différentes solutions qui existent maintenant.
Merci beaucoup, Georges. Merci, Philippe. On a compris que tous les deux, dans le fond, vous étiez des facilitateurs, puis faciliter, c'est aussi rassurer, hein, Philippe. On sait rassurer les entreprises qui nous écoutent que la transformation numérique, c'est payant, d'où l'exemple d'une transformation réussie. Merci beaucoup, Virginie, de
Merci,
chez Olofi.
Merci, Isabelle.
Merci bien. On va encourager tout le Québec à manger du gruau québécois, si c'est pas déjà fait. Libre-échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec Virginie Lepage, directrice générale de la ferme Olofi, Philippe Fortin, directeur général financement corporatif et comptes nationaux chez Desjardins, et Georges Sabag, vice-président solutions technologiques chez Innocentre. Suivez-nous sur votre application de balado préférée et sur la chaîne YouTube de Desjardins.